Bonjour, bonjour, bienvenue à tous dans notre émission Le casque et le clavier, présenté par moi-même Julien Genedi
et moi-même Ismaël Chawa.
Aujourd'hui, nous allons commencer par vous présenter un coup de cœur d'Antolin sur Abdel Malik, puis on enchaînera avec une critique d'un livre de Mathias Sénard, Parle-leur de roi, de bataille et d'éléphant, paru chez Actes Sud en 2013. On enchaînera avec une critique du film Un homme idéal de Yann Gosselin avec Pierre Ninet et Anna Girardot.
Et on continuera avec un coup de cœur de Si c'était un homme, puis à une expo de Pharaon qui était au British Museum, elle a terminé, c'était jusqu'au 7 février, et un débat musical sur le East Coast et le West Coast.
Donc on commence tout de suite avec Antonin. Antonin, votre coup de cœur sur Abdel Malik ?
Oui, c'est ça. Donc Abdel Malik, c'est un rappeur strasbourgeois, il a vécu son enfance à Brazzaville. Il a fait partie dans sa jeunesse des NAP, des New African Poets. Il a fait quelques albums avec eux et puis il sort son premier album solo en 2006, Gibraltar, son deuxième album en 2008, Dante, et son troisième album, Château Rouge, en 2010. Et moi, je m'intéresse surtout à Gibraltar, mon album préféré, celui avec lequel le public l'a découvert. Il parle de son enfance, des problèmes qu'il a eu par rapport à la drogue et la délinquance, avec un ton très sérieux et qui très ferme et assez poignant de sa vie d'enfance à Strasbourg.
C'est aussi un écrivain, n'est-ce pas ? Il a écrit, il me semble, en 2010, « La guerre des banlieues n'aura pas lieu », un livre très sympathique qui raconte un point de vue différent sur la banlieue. Et il sort en 2014 son livre « Qu'Allah bénisse la France ».
Oui, un livre que je n'ai pas lu, mais qui a reçu de très bonnes critiques et qui a été adapté en film dont il est le metteur en scène.
Très bien, donc on écoute tout de suite.
Soldat de plomb, tout maigre dans ma grosse veste qui me servait d'armure. J'avais du shit dans mes chaussettes et je faisais dans mon pantalon. Soldat de plomb, soldat de plomb. J'avais juste 12 ans, les poches remplies d'argent, j'avais déjà vu trop de sang. Soldat de plomb, soldat de...
On enchaîne tout de suite avec la critique du livre de Mathias Sénard, Parle-leur de roi, de bataille et d'éléphant, paru chez Actes Sud en 2013. Donc c'est un livre qui raconte l'histoire de Michel-Ange, qui fuit Rome et son pape Jules II, parce que ce dernier a refusé de le payer. Il décide alors de se rendre à Constantinople, auprès de Bugicette, qui va lui demander de construire un pont qui sera la plus magnifique de toutes ses œuvres. Mais bien sûr, une fois arrivé à Constantinople, beaucoup de problèmes vont se confronter à Michel-Ange, hein, car sans problème, il n'y aurait pas d'histoire. Nous vous laissons donc découvrir les improbables aventures de Michel-Ange dans ce royaume de la sublime porte. Qu'en penses-tu, Capucine ?
Mon avis est mitigé sur ce livre, parce que je dois bien avouer que j'ai pas tout compris.
En effet, j'ai trouvé que le livre n'était pas très accessible. Trop souvent, les mots sont compliqués, la narration est difficile à comprendre, et en plus, on se demande toujours qui prend la parole. C'est l'un des rares livres de 100 grammes qui m'est tombé des mains.
Je suis pas d'accord avec toi, Hulk. Est-ce à cause de ton vocabulaire enfantin ? Le livre est écrit d'une manière très philosophique. De plus, certaines scènes sont sublimes.
C'est sûr qu'un livre qui débute par la phrase « La nuit ne communique pas avec le jour, elle y brûle » est effectivement une dimension philosophique, si le terme philosophique signifie « incompréhensible ».
En fait, c'était un livre qui se veut historique sur une période artistique importante, la Renaissance de Michel-Ange. Malgré l'originalité de l'arrière-plan, l'histoire demeure assez trop prévisible. J'avais trouvé que le trim était très lent, car on vit au rythme de la création de Michel-Ange. Mais le problème était que la création ne se fait pas. C'était donc un livre très frustrant. Et l'histoire d'une création qui ne s'écrit pas. Bref, c'était un livre sur rien.
La frustration vient du fait que tu n'apprécies pas les contemplations de Michel-Ange. Les phrases d'attente et de non-création font de la création. Cela me donne d'autant plus d'envie de savoir à quoi va ressembler ce pont à la fin. Un pont sans fin, c'est un pont infini.
Infini. Comme le livre d'ailleurs, qui ne fait pourtant que 170 pages, je le rappelle à nos auditeurs.
C'est un livre très poétique, dont vous ne semblez pas avoir apprécié la poésie.
Bah, vu le titre, déjà, on ne sait pas quoi, ce qu'il fait là. Hein.
D'ailleurs, on peut parler de la poésie du titre qui ne correspond en rien au contenu de l'histoire, mais je le trouve quand même assez beau.
Un titre doit embrouiller les idées, non les embrigader.
Oui, pareil, c'est une cotation très, très informative. Quelqu'un d'autre sur le sujet de ce livre ?
C'est certain qu'un titre pareil, ça embrouille les idées. Enfin, le titre n'a même absolument rien à voir avec le contenu du livre, finalement.
Mais moi, j'ai aimé le livre, alors que pourtant, je n'aime pas lire. Cher public, je vous conseille vivement la lecture de ce roman très déconcertant.
Même trop déconcertant.
Et très poétique. Cela reprend l'histoire de Michel-Ange dans une aventure surprenante en Turquie.
Nous ne conseillons pas la lecture de ce livre, car il est inutile à la lecture. C'est une perte de temps et une accessibilité très limitée, parce que le livre est tout simplement impossible à lire, les mots sont trop compliqués. Et vu que Farès l'a aimé, ça veut dire qu'il est nul.
Très bien, on enchaîne donc tout de suite avec une illustration musicale de ce livre de Mathias Sénard. Et on enchaîne tout de suite avec la critique du film « Un homme idéal » de Yann Gosselin avec Pierre Ninet et Anna Girardot.
Donc alors, « Un homme idéal », ça présente l'histoire d'un écrivain en herbe qui s'approprie un journal de guerre d'un homme mort. Donc s'ensuit des péripéties au rythme soutenu et au suspense omniprésent. Donc moi personnellement, j'ai bien aimé le film. Car le réalisateur n'ayant fait qu'un seul film auparavant, celui-ci est très bon pour un deuxième film.
Peu importe le nombre de films, le réalisateur doit faire un film correct, cohérent, dès le premier coup d'essai. Le portrait du personnage principal est nul, même si incarné par un acteur excellent. Trop d'émotions sont jouées à la fois ou à la suite. L'acteur est bon, certes, mais c'est le personnage qui est mauvais.
En effet, le personnage éprouve trop d'émotions à la fois.
Je trouve que le jeu de Pierre Ninet est remarquable et qu'il fait ressentir au spectateur cette terreur croissante d'être démasqué.
Ce personnage n'est pas assez humain dans ses choix. Il réagit à des événements, il semble subir et réagir de manière automatique. Je pense que le point fort se trouve dans la réalisation et dans le choix des musiques et dans les plans.
Puis, moi je pense qu'on passe trop rapidement d'un problème à un autre. Lorsque le personnage principal en résout un, il y en a 10 autres qui apparaissent.
El Kazab Hablo Osir.
Ce qui signifie Forest.
Le mensonge a un fil court. Le personnage ment finalement, il est vite découvert. On ne peut pas cacher la vérité pour toujours.
Et le suspense est bien mené grâce aux musiques. Elle donne une dimension tragique au film.
Au contraire, Antonin, le suspense ne sert finalement à rien puisque le personnage revient à son point de départ.
La fin révèle ce qui aurait dû être le vrai titre du film.
La vérité n'est jamais aussi douloureuse que la découverte d'un mensonge.
Je ne suis pas sûr que tu aies bien... tout compris. Certes, le problème est qu'il ne souffre pas de la découverte du mensonge et c'est ce qui rend la fin artificielle.
À mon avis, le problème majeur, ce sont ces clichés portés notamment sur les personnages secondaires qui prennent une place trop importante alors que secondaires. Parce que, par exemple, la famille riche parfaite qui tourne au désastre, un lieu paradisiaque, un meurtre et la disparition du corps trop classique qui revient dans beaucoup trop de films. Et enfin, une fin qui est plutôt ridicule.
C'est vrai que dans l'ensemble, ce film comporte pas mal de clichés et de scènes un peu discutables, mais il ne faut pas oublier que la réalisation est assez impressionnante. Le casting est intéressant, malgré quelques choix étranges au niveau du jeu de Pierre Ninet. Les autres acteurs sont un peu éclipsés, ce qui est dommage, mais le choix des plans, le montage, la musique sont pleins de raisons d'aller voir Un homme idéal. Franchement, allez le voir et construisez-vous votre propre avis.
Et ce sera tout pour cette rubrique.
Toute bonne chose a une fin.
On enchaîne tout de suite avec, on écoute le trailer du film.
Bonjour Mathieu Vasseur à l'appareil. Je vous appelle parce que j'ai reçu une lettre de votre part.
Je voulais déjà être sûr que vous ayez lu mon manuscrit. C'est un petit peu brusque comme réponse. Vous pouvez pas juste dire, voilà, ça nous intéresse pas.
La famille veut rien récupérer.
Quelle famille?
pas de famille. C'est un vieux qui vivait seul et qui est mort seul. Les retours presse, la critique est dithyrambique.
Voilà. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Une réussite magistrale.
C'est puissant au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer.
Bonjour ma chérie.
Ça va maman?
Bonjour Mathieu.
Ça va faire 3 ans Mathieu et on a toujours rien. Les gens commencent à se poser des questions, tu sais.
Il faut juste que je retravaille certains passages, c'est tout là, j'ai bientôt fini.
Il y avait une lettre pour vous ce matin, la voilà.
Allô?
Violer la mémoire d'un mort.
Je te présente Stan, le fils de papa dont je te parlais. Mathieu.
En tout cas, tu peux être fier d'avoir dompté notre Alice. C'est pas la portée du premier venu. Je sais de quoi je parle.
Mathieu, téléphone pour vous.
Vous êtes qui, bordel?
Et toi, Mathieu, tu sais qui tu es?
C'est quoi ces appels que tu reçois?
Quels appels?
Arrête de mentir.
Alors, ça avance? Ton roman?
Arrête, le deuxième, c'est toujours le plus dur. Tu dois avoir la pression, non? Vous savez, les femmes finissent toujours par savoir qui on est vraiment.
Vous appelez pas ici, c'est clair. Putain, mais vous êtes où?
Et tout de suite, le coup de cœur d'Ismaël sur le livre « Si c'est un homme » de Primo Levi, publié pour la première fois en 1947 et réédité récemment aux éditions Pocket.
Donc, c'était un livre qui m'a vraiment fasciné la première fois que je l'ai lu, j'avais 12 ans. Et quand on parlait du Holocauste, c'était, c'était un sujet qui était un tout petit peu tabou. Personne ne voulait y parler parce que c'était vraiment dommage qu'est-ce qui s'est passé. Et toute chose qui était dite contre ceci était dite comme quoi antisémitique. Quand j'ai lu le livre, on dirait un livre de plus de Hervé de Balzac ou même de Émile Zola, parce que comment Primo Levi a décrit ces lieux complètement horrible, c'était vraiment émouvant pour un lecteur, comment on peut voir comment un humain peut dégrader l'autre à un point où on pouvait que voir leurs squelettes, ils avaient plus de chair sur eux, c'était que des squelettes, et on pouvait même trouver des images comment des juifs, ils devaient brûler leurs frères dans des grands fours après qu'ils étaient menés à la gaz à chambre. Donc ça m'a vraiment choqué. Et Primo Levi, il s'est suicidé en 1960. Aux années 70, on ne sait pas pourquoi, mais après, qu'est-ce qu'il a vécu, je crois que c'est un peu explicable. Merci beaucoup.
Oui, c'est compréhensible. On enchaîne tout de suite avec une critique de l'exposition sur les pharaons. Donc, l'exposition sur les pharaons qui était au British Museum et que nous et notre équipe avons eu l'occasion d'aller voir. C'est donc une exposition qui commence en 30 avant Jésus-Christ, lorsque l'Égypte devient une province de l'Empire romain à la mort de Cléopâtre. Et ça continue et ça s'achève en 1171, quand le règne de la dynastie islamique des Fatimides s'achève. C'est une exposition très marquante de par la présence d'objets préservés uniquement dans le climat aride de l'Égypte. Et cette survie de tous ces objets permet vraiment de plonger dans ces histoires que chaque objet peut raconter. On voit notamment les tensions et les violences entre les juifs, les chrétiens et les musulmans. Moi, par exemple, l'objet qui m'a le plus marqué, c'est la statue de Horus, le dieu égyptien, qui porte une armure d'empereur qui, elle, était dédiée au dieu de l'Olympe. Et je trouve que ça montre très bien le mélange des religions.
En effet, cette exposition était très intéressante. Elle était animée par un film d'introduction. De plus, la photo d'une fresque était très belle. Celle-ci était colorée et représentait des animaux tels que des antilopes et des renards.
Oui, je suis d'accord avec Charlotte.
Je pense que la dernière pièce était une des plus significatives de l'exposition, car elle explique comment, grâce à cette À ce certain endroit, les archéologues ont pu retrouver de nombreuses archives qui ont aidé énormément à mettre en contexte la vie des hommes après l'ère des pharaons.
Ce que j'ai bien aimé, c'était l'état de préservation parfait des objets exposés, et ceci a rendu l'exposition plus réelle.
Oui, bien sûr, nous avons eu l'impression de rencontrer les personnes qui l'ont construit et peint.
C'est donc une exposition très édifiante sur la religion et sa place en Égypte.
Non, c'est plus sur la civilisation. Si tu parles de religion, c'est trop réducteur par rapport à l'exposition.
Je soutiens toujours Charlotte. Il ne parle pas seulement des religions, mais surtout des civilisations.
Nous pouvons voir avec cette exposition la tolérance religieuse entre ces trois cultures. Par exemple, avec l'invasion des musulmans, ils n'ont pas imposé leur religion, ils n'ont pas interféré avec les juifs et les chrétiens. Cependant, les autres religions devaient payer un impôt appelé la jizya pour leur protection.
En parlant du documentaire, en revanche, je l'ai trouvé très intéressante parce que la vidéo, c'était une sorte d'amorce à l'exposition. Et elle annonçait les quatre religions principales, celle des Romains, donc ils étaient polythéistes, le christianisme, le judaïsme et l'islam.
Ce documentaire était très pédagogique et explicatif.
Une exposition finalement très intéressante, peu importe le point de vue qu'on y porte. On enchaîne tout de suite avec une illustration musicale de cette exposition.
Maintenant, nous allons vous présenter un débat sur le East Coast et le West Coast. Vous avez probablement entendu de ces deux régions fameuses des États-Unis où dans les années 90, deux rappeurs, Biggie et Tupac, se sont confrontés. Et maintenant, nous avons quatre personnes ici, cinq, pour discuter le débat de ceci.
Donc oui, Tupac et Biggie, deux figures édifiantes du rap. B.I.G. qui représentait la East Coast et qui vivait à New York. Et l'autre, Tupac, qui incarnait la Thug Life West Coast. Chacun dans des styles différents, ils vont faire évoluer le rap dans les années 90. Malheureusement, une guerre des gangs mènera ces deux jeunes talents à la mort. Tupac se fait d'abord tirer dessus depuis une voiture à Las Vegas le 13 septembre 96. Puis 6 mois plus tard, Notorious B.I.G. meurt de la même façon à Los Angeles. Donc triste fin pour ces deux artistes, même si on va pas se mentir, Biggie, c'est plus de la pop.
Personnellement, j'aime énormément Biggie, mais je n'aime pas trop le changement de voix de Biggie à la femme pendant le refrain. Sinon, je trouve que Biggie reste un très bon rappeur, que ce soit au niveau instrumental que lyrique.
Alors moi, je suis pas du tout d'accord avec Charlotte. Hein. Je trouve que déjà, Tupac, il a un côté écrivain. Il raconte les problèmes dans le ghetto. Et puis par rapport à Biggie, il parle aussi de son passé. En plus, il est pas resté actif qu'en rap. Il a aussi fait de la politique et aussi du cinéma. Par exemple, en 96, il a tourné dans deux films, Bullhead et Gridlocked.
Moi, personnellement, je préfère Biggie. Même s'il faut avouer que les paroles sont un peu moins recherchées, c'était son choix d'écrire ses musiques avec un langage simple. Ce n'était donc pas dû à son musique, dû à son manque d'éducation. Je trouve que la musique trop déprimante, alors que celle de Biggie est entraînante, dansante. À écouter, ça me plaît.
Moi je suis plutôt du côté de Tupac. Je trouve ses chansons beaucoup plus sombres et obscures. Et en fait c'est cette obscurité qui va représenter ses chansons, car il parle des difficultés qu'il a rencontrées durant son adolescence. Ses chansons, elles s'opposent à celles de Biggie, qui sont beaucoup moins recherchées. Et les paroles, elles sont agressives. Et derrière, on y trouve un fort message. Maintenant, côté musique, elle est construite sur une gamme mineure, ce qui donne un effet mélancolique.
Biggie restera dans l'histoire en tant que meilleur rappeur que Tupac. Il a quand même réussi à s'imposer à une époque où le West Coast domine le hip-hop aux États-Unis. Il faut quand même reconnaître le fait qu'il a vendu plus de 17 millions de disques dans le monde et il a été élu par MTV 3e MC de l'histoire, ce qui ne représente pas rien. Pour moi, la musique de Biggie restera plus dans l'histoire que celle de Tupac et Biggie restera meilleur rappeur des années 90.
Non mais de toute façon,
on va pas repartir dans le débat. Tupac est bien meilleur. On écoute tout de suite des extraits de ces deux artistes. I welcome with my hands and the red sun sinks at last into the hills of gold. At peace to this young warrior without the sound of guns. If I could recollect before my hood days, I sit and reminisce, thinking of bliss and a good day. I stop and stare at the younger, my heart goes zoom. A testing with stress. Donc ça c'était Ghetto Gospel de Tupac et on écoute tout de suite Hypnotize de Notorious B.I.G. Don't think shit, think pink gators. My Detroit players, Tim's for my hooligans in Brooklyn. Dead right, hit the head right, Biggie there, and I. Papa been smooth since days of under rules. Never lose, never choose to. Bruise, cruise, who? Do something to us. Talk goes through us. Girls want to us, wanna do us. Screw us, who us? Yeah, Papa and Pop. Donc malheureusement, il nous reste plus de temps. Nous avons eu un coup de cœur de Abdelmalik, suivi d'une critique d'un livre de Mathias Hénard. On a enchaîné avec une critique cinéma, Un homme idéal, réalisé par Yann Gozlin. Les acteurs principaux sont Pierre Niney et Anna Girardot. Puis on a été présenté avec un coup de cœur du livre Si c'était un homme, suivi d'une analyse détaillée de l'expo Pharaon qui était au British Museum. Et on a terminé avec un très grand débat musical. Merci à tous et au revoir.
Merci beaucoup de nous avoir écoutés et on se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine émission.